déjà tellement frustrant de voir des gens que 10 minutes, un quart d'heure. Moi, j'arrive pas, quoi. J'arrive pas à être courte, alors bon, je vais essayer.
Julie Bertuccelli, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous voilà avec votre troisième long, donc La dernière folie de Claire Darling.
Je dirais mon troisième long métrage de fiction.
De la fiction, oui, il y a plein de documentaires quand même.
Alors, toujours long métrage comme c'était la fiction, mais c'est fiction.
Et alors, donc, c'est une adaptation du roman Le dernier vide-grenier de Faith Bass Darling. Finalement, c'était un titre un peu réducteur, non ?
J'aimais ce titre. Hein. D'ailleurs, pendant longtemps, le film s'est appelé Le dernier vide-grenier de Claire Darling. Mais c'est vrai que peut-être que j'ai rajouté plus de folie et de vision onirique et de choses qui me sont proches et propres. Donc, il a été question à un moment donné de changer le titre. Et puis aussi, le vide-grenier, peut-être qu'on avait peur que ça attire un peu moins ou que ça soit un peu réducteur, un peu poussiéreux. Bah, même si moi, j'adore les vide-greniers, donc c'est bien pour ça que j'ai choisi ce bouquin. Mais on a aimé rendre le truc plus ouvert et que dans La dernière folie, il y avait un double sens qui me plaisait bien.
Alors, quel était le travail le plus dur, finalement, dans l'adaptation avec Sophie Filière ?
Le plus dur, c'était un très beau moment de travailler avec Sophie. Et donc, on a comme toujours, quand on adapte un livre, c'est pas simple parce qu'on est vite enfermé. On respecte trop le livre et il faut à un moment donné faire un pas de côté et accepter de lâcher des choses, de ne plus s'accrocher à des passages de l'histoire et à inventer d'autres, quoi. Donc vraiment ne plus respecter le livre. Et donc c'était ça la difficulté. Après, on a eu beaucoup de plaisir à le transformer déjà, sans encore en changer vraiment des parties, mais à lui trouver une autre temporalité, à inventer comme ça cet entrecroisement du présent et du passé, qui évidemment était un peu évoqué dans le livre, mais d'une manière beaucoup plus classique, d'un narrateur qui raconte l'histoire d'une famille. Mais là, qu'on essaye à l'image et qu'on trouve une forme à cet entrelacement, que les comédiens se voient eux-mêmes plus jeunes et que d'une manière très fluide et très simple, le passé se balade dans le présent, l'air de rien, et que du coup il change le présent parce que pour moi le passé n'est toujours que redigéré et revécu, et il s'invite comme ça à des moments pas prévus à l'occasion d'un objet, d'une pièce, d'une bribe de quelque chose. Et ça, j'avais envie de le retracer. Le flashback, pour moi, même si j'aime beaucoup le voir dans certains films, mais n'est pas ce que je vis, moi. C'est pas comme ça que je vis le passé, quoi. Je ferme pas les yeux et j'ai pas une scène entière. C'est parce que je suis là, devant lui, et les yeux ouverts, que des fantômes réapparaissent presque.
Il y a pas mal d'éléments autobiographiques. Est-ce que vous êtes rendu compte directement que finalement, vous étiez beaucoup plus impliqué qu'on pourrait le croire ?
Oui, je pense que quand même, en lisant le livre, j'ai bien vu qu'il y avait... Ça m'a vraiment très vite parlé. C'est pour ça que j'ai eu le désir de l'adapter, quoi. Mais après, il y a toujours des choses qui arrivent après coup. J'avais vécu la même chose pour L'Arbre, hein, qui est devenu un film très autobiographique. Je n'avais pas conscience que ça allait devenir autant. Et qu'il y a toujours des hasards de la vie qui font que c'est incroyable, parce qu'effectivement, il y a des choses qui m'étaient arrivées, qui sont arrivées dans le livre, mais il y a aussi des choses qui me sont arrivées après. Donc ça, c'est la magie de l'inconscient aussi, de pourquoi on choisit une histoire. Mais c'est vrai que c'est ça, c'est parce qu'il y avait des échos dans ma vie à cette histoire, même si dans mon histoire familiale, il n'y a pas les mêmes drames, mais entre les rapports humains, les rapports de mère-fille, de grand-mère, de mère, de tout ça, et puis le rapport aux objets, surtout aussi.
Et le choix des lieux, quand même, parce que bon, aller tourner chez sa grand-mère, ça ne doit pas être évident, non ?
C'est vrai que ce n'est pas évident, puis en même temps, c'était très...
Ou au contraire, très excitant.
Ouais, en même temps, très évident, parce que c'est vrai que quand j'ai lu le livre, qui est un livre américain, et que j'ai tout de suite pensé je lisais le livre en fait inconsciemment avec le décor, avec cette maison, quoi. Et donc très vite je me suis dit, même si j'aurais adoré tourner aux États-Unis et que j'ai plutôt tous mes deux autres films de fiction étaient tournés à l'étranger et j'avais l'intention de faire tous mes films à l'étranger, là je me suis dit bon, je vais faire mon film européen et français, parce que là la maison ça serait trop magnifique d'y tourner, quoi, de garder une trace de cette maison qui va plus être la nôtre, et qu'elle s'insère complètement et que ça devient un personnage aussi du film, de même que les objets le sont. Et donc c'était effectivement, ça reconvoquait pour moi très intimement beaucoup beaucoup de souvenirs, beaucoup de choses plus ou moins triste et plus ou moins joyeuse, mais ça donnait un sens, parce que vous savez, quand on fait un film, on y passe 3, 4 ans de sa vie, parfois 5, et que s'il n'y a pas une boule qui est nous, quoi, si nos tripes ne sont pas reconvoquées là, moi, je ne tiens pas tant d'années, quoi. Et dans tous les films de fiction que j'ai fait, il faut qu'il y ait ça qui me tienne, parce que c'est le plaisir, en fait, aussi, de l'air de rien, avec une distance, avec une histoire qui est autre, avec l'adaptation d'un livre ou inspiré d'une histoire vraie qui n'est pas la nôtre, de pouvoir insuffler un peu et de se sentir de soi, l'air de rien, parce que personne n'est censé le savoir et on s'en fout, d'ailleurs, ça n'aide en rien le spectateur, mais moi, ça m'aide à y trouver un sens, et pourquoi c'est moi qui le fais et pourquoi j'ai décidé de le faire. Voilà, il y a une évidence qui est moteur et qui est importante.
Alors, vous êtes d'une famille de chineurs, vous êtes une chineuse vous-même. Quand vous allez en brocante, vous trouvez un objet, est-ce que immédiatement vous pensez à toute une histoire autour de cet objet?
Oui, très souvent. C'est vrai que j'ai le plaisir à ça. Alors, pas toujours, mais c'est vrai qu'il y a des objets qui d'abord, sont une sorte de madeleine nostalgique, de penser à mon arrière-grand-mère dans le grenier duquel il y avait ce genre de jeu, ce genre de bol, ce genre de vieille poupée, et ce genre de tissu, et que là, comme ça vient comme des pulsions où ça c'est une part de mon enfance qui est là et que j'ai envie de retrouver et de garder. Et puis aussi l'émotion de penser à tous ces objets souvent que les gens mettent comme ça vide dans ces brocantes et vide leur grenier de plein de choses qui ont l'air anodines comme ça et qui en fait ont traversé très des lourdes, vies quoi, très lourdes, des petites poupées un peu abîmées mais qui en fait ont été peut-être la poupée d'une arrière-grand-mère qui n'avait que ça et qui lui a donné tant d'amour et qui a projeté en elle tellement de rêves que ça m'émeut en fait. Donc je ne sais pas pour autant que j'achète toutes les vides-greniers, mais cette traversée dans le temps et dans l'histoire de l'humanité et puis de se dire que tous ces objets on est bien avant nous et vont nous succéder et vont passer à travers de différentes familles, c'est quand même très fort, quoi.
Alors arrivons-en au casting. Comment convainc-on Catherine Deneuve?
On lui fait lire un scénario. Et puis, elle avait vu mes autres films et je pense que l'ensemble l'a, j'espère, convaincue. Enfin, elle a accepté, donc ça doit être ça. Mais c'est vrai qu'on s'est rencontrés aussi plusieurs fois et le rôle était, je trouve, assez fabuleux pour elle. Lui correspondait tellement bien qu'elle aussi est une grande chineuse et elle a surtout une vie flamboyante. Elle est remplie, c'est une femme d'une liberté incroyable, qui prend des risques, qui aime le cinéma, qui du coup avait, je pense, pas mal de résonance aussi peut-être pour elle dans sa vie, d'une certaine manière, pas du tout les mêmes, mais donc je l'ai convaincue, elle s'est convaincue elle-même que ça pouvait être un film pour elle, et parce qu'elle, malgré qu'elle ait travaillé avec les plus grands, elle aime bien encore tenter des rôles nouveaux, étranges, osés, parce que c'est vrai que c'est pas si facile pour une femme d'accepter les cheveux blancs, d'accepter d'un film qui parle de peut-être le dernier jour de sa vie. Mais c'est ça sa force, quoi, c'est qu'elle est toujours par amour du cinéma à essayer toutes sortes de choses qu'elle n'a pas encore fait.
Quand on est fan comme ça d'une comédienne, ça doit être dur de dire couper, non?
Ah oui, c'est dur. C'est dur, et puis on a envie surtout de refaire des prises sans fin. Mais quoi qu'elle est tellement excellente dès le début que, le temps aussi.
Juste pour le plaisir.
Juste pour le plaisir. Voilà, chaque fois, on en refait toujours une pour le plaisir. Et puis, on a hélas des contraintes financières qui fait qu'on ne peut pas non plus y passer des heures. Mais c'est sûr que c'est une femme qui est en plus de ça une partenaire pour le film, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'intéresse au scénario, dans son ensemble, aux autres rôles. Donc c'est un regard très accompagnant. Et donc elle amenait, j'avais même envie de lui demander son avis parfois sur certaines choses, parce que c'est vraiment une femme fine, intelligente, qui connaît tellement bien le cinéma que son avis m'importait et que parfois je suivais ses conseils, parfois pas, mais elle était très à l'écoute aussi de mes arguments et qu'elle n'est pas non plus quelqu'un qui vampirise et prend la place, quoi. Elle est juste une collaboratrice attentive et intéressée par le film, donc c'est précieux et génial, quoi. Et pareil pour sa fille d'ailleurs, Chiara Mastroianni, qui est une perle, quoi, une actrice fabuleuse, et que avoir les deux ensemble, c'était génial, surtout qu'elle jouait mère-fille, et que ça apportait un plus organique, puisque moi-même j'y mettais beaucoup de moi, d'avoir aussi deux femmes qui apportent d'elles une relation, même si elles n'ont pas ce rapport-là dans la vie, c'était un film familial à tous les niveaux, et c'était fort pour nous toutes.
Dernière petite question, enfin, ou peut-être référence. Pierrette Aix, oui. Avec qui vous avez travaillé, c'est vrai que on pense à lui.
Oui, on pense beaucoup à lui. On pense aussi à Ottario Celiani, j'espère, aussi. Non, mais c'est vrai, Pierrette Aix, c'était un grand, quoi, un très, très grand. J'ai eu la chance de travailler un petit peu avec lui sur des petits films pour enfants qu'il avait fait lorsque j'étais étudiante. Mais voilà, ça a été... C'est des artistes qui m'ont accompagnée et des réalisateurs, comme il y en a d'autres, comme Kieslowski ou Emmanuel Finkel ou mon père. Et c'est vrai que je suis faite de tous ces films et tous ces réalisateurs et réalisatrices.
Voilà. Philippe Bertuccelli, un grand merci. Et à très bientôt.
Merci, à bientôt.